Alors, afin que tout le monde se sente bien à l'aise et qu'il se retrouve un peu en pays de reconnaissance, ah oui, donc, avec un beau « wow », s'il vous plaît.
Wow!
Ah bon, vous allez avoir l'impression que c'est votre pasteur Michel qui vous fait le message déguisé en moi. Fait que, sentez-vous bien à l'aise d'envoyer une couple de « wow » ou des « amen » ou des « alléluia », j'ai rien contre ça. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, ce message va porter... Disons que la Pentecôte, là, ça va être mon excuse pour mon message aujourd'hui. Mais ça va être surtout un enseignement sur l'Esprit-Saint. On sait comment est-ce que, d'ailleurs, l'Esprit-Saint a vraiment agi avec beaucoup de puissance en ce jour de la Pentecôte, dans l'Antiquité, dans le temps de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'était une promesse que Jésus avait faite à tous ses apôtres et disciples, qu'il enverrait un consolateur, qu'il enverrait quelqu'un pour prendre soin d'eux. Alors, il y a une autre chose aussi que je voudrais vous signaler, c'est qu'il n'y a pas tellement longtemps, Jean Bomolo nous avait fait un enseignement justement sur la plénitude. C'était surtout porté sur la plénitude du Saint-Esprit. Et puis ce message-là, d'ailleurs, que j'ai bien aimé et puis que j'ai trouvé qui m'a beaucoup touché, aujourd'hui, je vais porter surtout l'accent sur la façon que l'Esprit-Saint agit en nous. Je vais avoir comme... quatre thèmes principaux sur la façon que l'Esprit-Saint agit sur nous sur une base quotidienne. Alors, je vais procéder en commençant sur la prochaine diapo, qui vous allez avoir de trois références. C'est qu'en faisant mes recherches sur la Pentecôte, puis développer sur les thèmes du Saint-Esprit, j'ai découvert que la Pentecôte coïncidait avec une fête juive. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait me dire c'est laquelle des fêtes juives qui coïncidait avec la Pentecôte. Ça se trouvait être en même temps. C'est 50 jours après la Pâque des Juifs. Eux autres célébraient une fête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelle fête que les Juifs célébraient à ce moment-là? Non? Louise? Non, ça n'est pas Pâque. C'est 50 jours après Pâque, mais c'est correct. C'est bon. Un choix de la fête des tentes, la fête des moissons, la fête, c'est quoi à part de la Pâque, c'est quoi à part de ça, Hanouka, c'est quoi ça, Yom Kippour. Je l'ai déjà mentionné. Non, c'est en plein ça. C'est la fête des moissons. Alors, la fête des moissons était la fête qui était célébrée en même temps que la fête chrétienne, la fête de la Pentecôte. Mais dans ce temps-là, eux autres, ils n'avaient pas encore vécu la fête de la Pentecôte. Ça s'est passé comme quelques centenaires plus tard, même millénaire et demi, je pense. Fait que, voilà, c'était la fête des moissons. Je vais d'ailleurs faire un petit survol rapide de qu'est-ce qu'était la fête des moissons. S'il y a quelqu'un, c'est peut-être écrit un peu petit, je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être le retrouver dans une version Louis II. Mais c'est les versets, dans Lévitique 23, les versets 15 à 22. Mais je vais vous le lire parce que je suis plus proche. Puis je peux lire en portant mes lunettes parce que c'est assez loin. Si c'était trop proche, j'aurais du truc, je verrais juste que de l'embrouiller. Là. Alors, depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains. Ça, c'est d'ailleurs, cette partie-là, de 17 jusqu'à près de la fin, là, c'était une prescription de l'Éternel, ce que l'Éternel demandait qu'il soit fait spécifiquement pour cette journée de la moisson, cette fête des moissons. Vous apporterez de vos maisons 2 pains, pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4,5 litres de fleurs, de farine et cuits avec du levain. Bon, là, ça n'a pas péché de mettre du levain dans le pain. C'est correct. Bon, bien, ça n'en prenait. Si on veut qu'il lève le pain, ça prend du levain. En tant que première part réservée à l'Éternel, en plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut. On sait que tout ça, les agneaux offerts, c'était comme un genre de prélude à la venue de Jésus-Christ, que Dieu nous offrirait son agneau sans tache, qu'il nous offrirait Jésus-Christ pour le rachat de nos péchés à nous. 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Vous offrirez un bouc. Les boucs étaient en sacrifice d'expiation. On sait que ça, c'était pour le pardon de leurs péchés. Et deux agneaux d'un an en sacrifice de communion. Ça, c'est deux agneaux offerts pour une autre façon spécifique, pour une autre raison. Le prêtre fera pour sa victime le geste de présentation devant l'Éternel, avec le pain et les deux agneaux. Là, il y avait un genre de rituel qui était rattaché au sacrifice concernant le pain et les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au prêtre. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Aucun travail pénible. Ça ne veut pas dire aucun travail du tout, mais aucun travail pénible, comme probablement pour faire de l'argent ou faire pour ses propres intérêts. Mais, tu sais, comme élever une fourmi de la terre, là, c'était permis. Mais les prêtres juifs, eux autres, les pharisiens, c'était déjà trop de travail d'élever une fourmi de la terre. Ils ont fait à peu près 653 règlements concernant le sabbat. Alors, il avait le droit de faire un petit peu de travail. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Partout où vous habiterez, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Parce qu'on sait très bien que les Juifs devaient aussi, par ce fait même, le fait de ne pas moissonner leur terrain au complet, prendre soin des pauvres de leur pays, leur permettre d'avoir de la subsistance, leur permettre d'avoir de quoi manger. Alors, c'est très bien. D'ailleurs, l'Éternel était on voit direct là, la compassion de notre Dieu. Hein? Un Dieu grand, un Dieu d'amour qui ne permettait pas aux Juifs de moissonner tout leur terrain afin de prendre soin des gens plus démunis. Bon. Maintenant, revenons à la fête qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Je voulais aussi passer juste un instant, on peut revenir à l'autre, parce que dans les références, vous aviez vu deux références de l'Ancien Testament, Deutéronome. S'il y a quelqu'un qui veut s'élever puis nous lire, ça aussi, ça avait rapport avec la fête des moissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se porter volontaire? Amen. Oui. Alors, voilà qu'est-ce qui concernait la fête des moissons, cette fête qui coïncide avec celle de la Pentecôte. Alors, on va se tourner vers la Pentecôte et on va, par la diapo qui suit, je vais lire le moment qu'on peut considérer comme le moment crucial de la Pentecôte, là, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur toute l'assemblée des disciples et que les langues de feu se sont posées sur eux. Tiens, je vais demander à Daniel. Daniel, pourrais-tu nous lire ça, s'il te plaît? Alors, on sait qu'à ce moment-là, dans l'histoire de nos croyances, de nos convictions, c'est un moment, on dit en anglais « pivotal », c'est un moment extrêmement important, c'est ni plus ni moins la naissance de l'Église, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu toucher tous les disciples, tous les gens qui vous suivaient, Jésus-Christ. On sait aussi comment est-ce que l'Esprit-Saint a agi. Je crois que historiquement parlant, ce jour-là, il y a plus de 3000 personnes se sont converties ce jour même. Alors, un beau baptême de feu pour ces gens-là, car il est écrit aussi que lorsque Dieu nous bénit son esprit, on est béni, on n'est pas béni, mais on est baptisé, ni plus ni moins, de feu, comme la discussion qu'il a eue avec Nicodème. Il faut qu'on renaisse de nouveau, il faut qu'on reçoive le baptême de feu, et c'est celui du Saint-Esprit. Alors, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est tout simplement les 50 jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit-Saint, promis par Jésus et répandu sur les apôtres, pour les chrétiens. C'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu donnée en surabondance au baptême. Voilà les quatre thèmes que je vais développer aujourd'hui concernant l'effet du Saint-Esprit sur nos vies. L'Esprit fortifie, console, inspire et vivifie. Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels. Cette année, la Pentecôte est célébrée, bien aujourd'hui, le 24 mai 2015. Bon, le premier point que j'aimerais développer, évidemment, c'est le Saint-Esprit nous fortifie. Puis j'ai deux références bibliques. Le premier, c'est Luc 1:80. Il est long, ce chapitre-là. Une chance, je n'avais pas à tout le lire. Fait que... vous allez voir comment est-ce que le Saint-Esprit a agi, mais la personne... qui est mentionné ici, on dit « L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire de qui il s'agit dans ce texte, dans cette référence biblique-là? Pas du tout. Voilà, Jean-Baptiste. Exactement. Et puis, la raison pourquoi que j'ai choisi ça, bien, c'est parce que ma Bible d'études me disait de prendre ce choix-là. Ça m'a aidé bien gros. Fait que l'enfant grandissait, il se fortifiait. Qu'est-ce qui arrivait avec plusieurs, historiquement parlant, là, pour faire agir le Saint-Esprit dans leur vie? Souvent, les prophètes, comme Jean-Baptiste l'était, et plusieurs autres, se réfugiaient dans le désert afin d'être en moment de solitude pour vraiment laisser agir en eux le Saint-Esprit. Ces gens-là faisaient exprès pour pouvoir vraiment méditer, vraiment se retrouver près de Dieu et ressentir l'Esprit de Dieu agir en eux. C'était d'une façon vraiment intentionnelle qu'ils se réfugiaient dans le désert pour passer des moments comme ça. À l'écart de tout pouvoir. C'est écrit ici. Jean se trouve à l'écart des pouvoirs politiques et économiques et peut ainsi mieux diriger son message contre eux. Puis on sait contre qui. Hein? Jean-Baptiste en avait un petit peu sur le cœur contre les principautés religieuses de son pays. Alors c'est pour ça que, avant d'aller se présenter, il a passé du temps dans le désert. Pour, on dirait en anglais « gather his thoughts », pour ramasser ses idées et pouvoir faire mieux face aux têtes dirigeantes de son peuple, les pharisiens, les sadducéens et tout ce qui finit en « haine ». Alors, ouais, il se trouve ainsi loin des chefs religieux. D'ailleurs, ici, ça mentionne « et peut ainsi mieux diriger son message contre eux. » Puis le « contre eux », il se trouve ainsi loin des chefs religieux hypocrites de son temps. Son message est différent et sa vie le démontre. Pourquoi sa vie le démontre? C'est parce que, justement, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tellement agi dans la vie de Jean-Baptiste, il était considéré aussi comme un peu un excentrique, un gars habillé avec des peaux de chameau puis des peaux d'à peu près tout ce qui crawlait dans le désert, justement. Il mangeait des crapauds puis des, je sais pas trop quoi, des sauterelles. Donc, surtout des sauterelles, pas des crapauds, parce que c'était des animaux impurs. Il n'aurait pas fait ça. Il aurait passé son temps au confessionnal à faire ça. Mais une chance qu'il n'existait pas dans son temps. Tu le vois-tu, le pauvre Jean-Baptiste, avec les genoux en sang, passer son temps à prier? Oh, j'ai mangé un crapaud. Oh non, j'ai fait là. OK. Okay. Alors, pour continuer, il y a Actes 9, 22. Là, j'ai pas le temps devant moi, fait que je sais pas combien de temps que je vais être ici en avant. De toute façon, ouais, OK, celle-là est à l'heure. Good. Mais j'aime pas ça. Sais-tu, Isabelle, tu aurais dû pas me rappeler qu'elle est là. Là, on va me rendre nerveux tout le temps dès que je vais te faire ma prédication. Je vais sentir de la pression.
On ne peut pas l'enlever.
On peut pas l'enlever? OK. Oh, mais j'aurais aimé que ça soit plus subtil. Quoi?
Il y a juste toi qui
la vois. Ah, ouais. OK, good. Parfait. Merci, Claire, pour ce réconfort. Je me sens déjà mieux. OK. Non, je vous souhaite pas ça quand même. Un statut de sucre, ça peut-tu faire? Non? Pas un statut de sel, un statut de sucre. Pour faire un changement, on est. C'est différentes époques, différentes matières. OK, alors on va passer à mon autre référence concernant la fortification du Saint-Esprit. On voit dans Actes 9, 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. C'est sûr qu'il ne se fortifiait pas de lui-même. Hein? Parce que Paul aussi avait, lui avec, à faire face aux têtes dirigeantes de son pays, c'est-à-dire toutes les têtes dirigeantes. On sait que ce qui était politiquement fort en Israël, c'était les religieux de son temps. Alors, en Actes 9, 22, « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. » On sait le genre de en anglais, on dit « the kind of heat » qu'il a dû subir, que le genre de pression qu'il a dû subir, parce que là, c'est de faire avaler aux religieux de son temps Jésus-Christ, ça devait être pas facile. Parce que c'est ni plus ni moins eux qui avaient demandé que Jésus-Christ soit crucifié. C'est eux qui avaient fait les pressions auprès du peuple. C'est eux qui avaient fait libérer Barabbas en remplacement de Jésus-Christ. Fait que c'est sûr que Paul a dû avoir besoin bien gros du Saint-Esprit pour pouvoir faire avaler à certains. Et je suis certain qu'à ce moment-là, il a dû en convaincre. Parce qu'il était tellement un érudit de la parole, Paul. Il connaissait tellement bien ce qu'il avait appris tout au long de sa vie. Un pharisien parmi les pharisiens que la parole dit concernant l'apôtre Paul. Et je suis pas mal tout certain qu'après Jésus-Christ, il va être probablement un des personnages qui va être le sollicité au ciel, lui. On va avoir quelques questions à lui poser avec tout ce qu'il a pu écrire, toutes les lettres. En tout cas, un homme génial, comme on peut savoir, comme on le sait tous. Dans ce verset, encore une fois, les arguments de Paul auprès des Juifs sont puissants, mais sont surtout appuyés par les transformations au niveau de sa vie. On sait que ce qu'il enseigne est vrai, car sa façon de vivre en est la preuve. Alors, à l'instar de notre autre prophète, Jean-Baptiste, de qui Jésus a dit a été le plus grand parmi tous les prophètes, à cause que c'est lui, qu'on sait très bien, a annoncé la venue de Jésus-Christ, celui qui aplanirait tous les sentiers. Mais Paul, lui aussi, pareil comme Jean-Baptiste, le montrait qu'il était un chrétien, le montrait qu'il y avait une vie transformée par le Saint-Esprit, parce que sa vie était vraiment différente de celle de tous les dirigeants religieux. Alors, voici pour la question de la fortification du Saint-Esprit. Je sens que mon message va être court aujourd'hui. Je vais essayer de rallonger ça le plus que je peux. Mais quand on n'a pas l'expérience d'un pasteur, hein, c'est un peu plus difficile. Mais c'est pas grave. Je sais que va vous garder intéressé le temps que je vais être ici. Pardon? Ah, c'est ça. On pourra peut-être méditer sur tout ce que j'ai pu trouver et travailler dessus. Alors, une autre des applications du Saint-Esprit dans nos vies, c'est que l'Esprit-Saint console. Il y a un mot qu'on peut trouver dans le grec, qui est, je vais essayer de le trouver moi-même, parakletos, qui veut dire « défenseur ». Parce que consolateur veut dire aussi défenseur. L'Esprit-Saint n'est pas seulement qu'un consolateur, il est aussi celui qui nous défend puis qui nous aide aussi à vivre notre foi. Je vais juste me retrouver dans mes notes ici. Ah oui, dans la référence biblique, Jean 14, 16 à 18. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de le lire, s'il vous plaît?
Et moi, je prierai le Père, je vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure Merci, Jean-Pierre. Oui.
Oui, en effet. C'est une chose qui est un mystère, en fait. Parce que Jésus leur a promis un consolateur, leur a promis l'Esprit Saint. Mais Jésus doit quitter. Alors, comment peut-il rester avec eux éternellement puis avoir quitté? Mais c'est le consolateur. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui vient à sa place. Puis ce que je trouve de bon aussi, c'est qu'il vient pour les guider, il vient pour les diriger, l'Esprit Saint. Il vient pour nous diriger, il vient pour nous guider. On peut vraiment louer le Seigneur pour le consolateur, celui qui agit dans nos vies dans ce sens-là, dans le sens de nous consoler. On sait que Jésus doit quitter à un moment donné. Alors, comment se fait-il qu'il pourra en même temps quitter ses disciples et rester avec eux éternellement? Alors, voilà l'intervention de l'Esprit. L'Esprit Saint de Dieu qui prend place. Celui-ci prendra soin d'eux et les guider. Que le Seigneur s'est assuré qu'il y a une relève. Le Seigneur s'est assuré qu'il y a quelqu'un qui va venir auprès de ses disciples, de ses apôtres, et pourvoir à leurs besoins spirituels. C'est le consolateur. D'ailleurs, le mot ici, c'est bel et bien parakletos, qu'on écrit P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Contient les idées de réconfort, de conseil, d'œuvrer pour nous et avec nous. Oui, le Saint-Esprit nous aide à œuvrer dans nos vies, nous aide aussi à œuvrer avec nous, et il œuvre pour nous. Le Saint-Esprit, on ne peut pas louer le Seigneur assez pour son intervention dans nos vies. Et comme disait d'ailleurs notre frère Jean Lambert, laissons-le travailler dans nos vies, acceptons-le dans nos vies, et fortifions-nous par le Saint-Esprit, fortifions nos vies par sa présence. Laissons-le agir, laissons-le... Et d'ailleurs, dans mes notes et ce que j'ai découvert, la façon de se remplir du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, se retrouvent très simplement dans la lecture de ce livre ici. Moi, je suis le premier coupable. Premier coupable de ne pas lire assez souvent ma Bible. Mes frères et sœurs, c'est ça qui nous remplit du Saint-Esprit. C'est la lecture de la Bible. Oui, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, certainement. Mes frères et sœurs, c'est crucial qu'on lit la parole de Dieu. Et moi, je prie parfois, et même vous invite à faire la même chose, je prie parfois que Dieu me donne la discipline de au moins mettre un 15 à 30 minutes par jour de lecture de la Bible. On ne peut pas laisser le Saint-Esprit agir si on ne plonge pas nos yeux dans la parole de vérité, dans la parole qui nous nourrit spirituellement, dans la parole qui fait de nous des êtres transformés, des êtres qui vont faire de nous des chrétiens modèles. Laissons-nous vraiment être imbibés de sa parole. Oui, Seigneur Dieu, je te remercie pour ce temps de pouvoir, Père Céleste, partager ce moment. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, alors je vais passer à l'autre diapo. Timothée 3, 16 et 17. L'Esprit nous inspire aussi. Oui. On peut vraiment s'inspirer du Saint-Esprit. On peut vraiment, dans nos vies, laisser l'Esprit diriger. On peut vraiment laisser l'Esprit nous conduire dans nos vies. Est-ce que je pourrais demander à quelqu'un de lire 2 Timothée 3, 16 à 17? Merci, Hector. Lorsqu'on regarde encore une fois ce verset-là, on parle des Écritures. On parle de la façon que les Écritures agissent. On parle pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu nous aide à être convaincus aussi de nos ce dont on croit dedans. Nous aide aussi à enseigner. Enseigner qui? S'enseigner à nous-mêmes? Enseigner aux gens autour de nous? Surtout enseigner à nos enfants. On sait que parfois, on vit des découragements avec nos propres enfants, de les voir quitter la foi. On sait, on a plusieurs membres ici qui de l'Église. J'en suis un père qui est troublé par ça, moi-même, de savoir que j'ai un enfant qui est éloigné de la parole. Mais ne désespérez pas. Continuez d'avoir la foi, continuez d'avoir cette conviction que la parole nous fait la promesse que leur avoir enseigné, ils vont se détourner du chemin. Mais ils ne le quitteront pas. Alors continuons de prier pour eux, continuons de prier pour nos enfants. Puis continuons d'essayer de trouver des moments pour leur enseigner la parole de Dieu. Je crois que c'est probablement le plus beau cadeau qu'on ne peut pas leur faire. C'est probablement la chose la plus importante qu'on ne peut pas faire pour leur vie. Alors, enseigner pour convaincre, pour corriger. Et oui, pour corriger. Quand on voit que des membres de famille se détournent de la parole, bien, ça nous aide à les corriger, les ramener sur le chemin, les ramener vers le bon chemin, celui que Dieu veut pour leur vie. Les instruire dans la justice. Voilà un autre sujet bien, assez important de nos vies, la justice. On voit comment est-ce que ça se passe ici sur la terre, la justice. Il y en a-tu beaucoup? Non, mais nous, on peut aider les gens à connaître la justice qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Oui, mes frères et sœurs, c'est ça qu'on est. On est appelés à faire des œuvres bonnes. Mais on sait que ce n'est pas ce à quoi on doit absolument penser qu'on obtient notre salut. On n'obtient pas notre salut par les œuvres bonnes. On est sauvés par la grâce de Dieu. On est sauvé par la foi. La foi en quoi? La foi dans le sang de Jésus-Christ. Mais il est écrit que la parole nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, faisons des œuvres aussi. Aidons ceux qui sont démunis. Aidons ceux qui sont mal pris. Seigneur, nous met à cœur d'aider les gens démunis. Et je suis content d'entendre qu'aujourd'hui, on ramassait des denrées, ça, on fait ça toutes les semaines, c'est super, mais aussi à mettre la main à nos garde-robes. Aujourd'hui, ce que j'ai fait expressément, très rapidement, hey, ça prend du linge aujourd'hui! Alors, j'espère que certains de vous ont pu y penser, mais écoutez, on n'est pas ici pour juger qui que ce soit. Mais c'est sûr que c'est bon d'aider les gens qui ont de la misère à s'habiller, hein, les gens qui ont de la difficulté de ce côté-là. Alors, pardon? C'est pour une bonne cause. Ça soulève des fonds. C'est une levée de fonds aussi qui se fait avec ça, je pense. Ils vont vendre le linge. Village des valeurs. La Banque alimentaire. Ah oui, c'est pour Jean Lambert, la Banque alimentaire. Amen. Alors, tout ce qu'on peut faire pour aider les gens démunis, il faut le faire. Puis, une chose aussi, il faut le faire avec bon cœur. Pas que ça soit considéré un genre de fardeau sur nos vies. Un autre verset, c'est-à-dire l'autre façon que le Saint-Esprit agit dans nos vies, il nous vivifie. Alors, le Saint-Esprit qui vivifie. J'ai deux références bibliques, ce qui va me permettre, en commentant sur chacun d'eux, de pousser ça peut-être jusqu'à midi, pas loin de 11h15, 11h10. En tout cas, j'espère que vous saurez me pardonner pour le manque de temps. Pas le manque de temps, mais le trop de temps. En tout cas, l'Esprit vivifie. J'espère quand même que le message aura un impact sur vos vies. Parce que c'est ce que je souhaite. Que le message aura un effet, que vous aurez quelque chose à apporter dans vos cœurs. Et puis, s'il y en a qui ont fait des gageurs que je ne passerai pas 15 minutes, bien voilà, je les ai faites déjà. C'est déjà ça de fait. En passant, l'argent des gageurs, vous pourrez la mettre On donnera ça, on remettra ça aux gens de Cloverdale et ainsi de suite. Merci de votre attention. Si vous me permettez, je vais juste me mouiller le sifflet un peu parce qu'il commence à être sec. Merci, mon épouse. Ce verre d'eau. Elle pense tout le temps à moi. Elle est une fantastique femme. Voyez-vous, mesdames, on vous aime. Si vous posiez la question, Madame Knapp, on vous aime, les femmes. Alors, voici, l'esprit inspire. J'ai vivifié, excusez, je l'ai fait ça. OK, vivifie. Juste pour revenir à Inspire, j'avais une petite note sur 3:16 de 2 Timothée. Mm-hmm. Par le Saint-Esprit, Dieu a révélé sa personne et son plan à certains croyants qui ont écrit son message par son peuple. Puis il y a une autre référence biblique que vous pourriez consulter dans vos moments de méditation ou de réflexion. C'est 2 Pierre, les versets 20 et 21. Tiens! Pour remplir un peu de temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait trouver ça dans sa Bible et nous lire ça? 2 Pierre, les versets 2 Pierre, le chapitre 1, versets 20 et 21. Question de me permettre de prendre une autre gorgée d'eau avant que je sèche debout. 2 Pierre, chapitre 1, les versets 20 et 21. Amen. Amen. Oui. D'ailleurs, il fallait que je revienne là-dessus. C'est bien important. Je suis content d'avoir vu dans mes notes ce petit passage-là, parce qu'on se fait souvent défier concernant nos croyances et nos convictions la parole, ça a été écrit par des hommes. Mais voilà un argument qui fait que non. C'est sûr que c'est dur pour quelqu'un qui n'a pas de conviction spirituelle, qui ne connaît pas la Bible, qu'on puisse, nous, en tant que croyants, les faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas écrite seulement par des mains d'hommes, mais elle est inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Cette parole-là n'est pas humaine. La parole de Dieu n'est pas humaine. Elle est inspirée du Saint-Esprit. C'est pour cela que, d'ailleurs, un peu plus tôt, on disait que pour certains, c'est comme une parole qui est invisible. Ils ne la comprennent pas. Parce que, premièrement, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est qu'être inspiré du Saint-Esprit. Des fois, c'est d'ailleurs difficile pour nous de communiquer le message de la parole parce qu'on est inspiré de l'Esprit-Saint de Dieu. Puis eux autres ne comprennent pas, ne saisissent pas pourquoi qu'on trouve si important de s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que nous, on est inspirés et eux ne le sont pas. Et notre prière devrait être dans le sens qu'un jour, ils le soient inspirés de l'Esprit-Saint de Dieu, afin de pouvoir recevoir ces paroles, afin de pouvoir recevoir le message tant important de la Bible. Alors, je suis content d'avoir revenu sur ce petit passage, bien important d'ailleurs, et qui est important pour nous, et qui est important pour nous de communiquer. Parce que c'est... Suzanne? Ben voilà, c'est la question à 1 000 $, là. C'est parce que nous, on ne le sait pas. Nous, on ne sait pas qui est-ce qui a choisi. Puis, le fait d'agir dans ce monde avec nos paroles, avec on sert d'instrument pour apporter ceux que, oui, Dieu a choisi. Mais nous, moi puis toi, on ne le sait pas. Dieu est souverain. Lui, il est avant le fondement de l'univers. Il savait qui, parce que Dieu c'est un être intemporel. Dieu sait qui va rapprocher son cœur à lui. Mais moi et toi, on ne sait pas. Fait que c'est pour ça que pour toute œuvre bonne et équipé pour toute œuvre bonne, ça fait partie des bonnes œuvres qu'on a à faire, nous. Puis c'est la grande commission, d'ailleurs, c'est de propager la parole au travers le monde. Pourquoi que si Dieu sait d'avance qu'est-ce qu'il va sauver, qu'est-ce qu'il a déjà sauvé. Pourquoi qu'on demande à des missionnaires comme mon frère ici, Daniel, qui donne libéralement sa vie pour suivre un rêve et quelque chose que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Et sais-tu, lui, à qui il va perdre son temps à propager la parole à eux, puis qu'il n'y aura pas de fruits, mais que peut-être il va avoir touché 50, 60, 100 personnes dans tout ça. Il ne sait pas qui, mais Dieu, lui, il sait. Amen. Oui. Il va aller où? Dans quel sens? Je dis où est-ce?
Il a choisi son monde pour les emmener avec lui.
Mm-hmm.
Mais Daniel fait pas partie des choix, puis il se défonce, lui. Il va faire des roues, il ne peut pas aller en enfer, c'est clair.
Non, mais c'est parce que il faut comprendre dans la parole que c'est pas par nos œuvres. C'est pas par nos œuvres qu'on obtient notre salut, Brigitte. C'est pas en tout, c'est par la foi. Pour commencer, le premier ingrédient, c'est la grâce de Dieu. Si on obtient notre ciel, c'est par sa grâce. Quelle est la définition de la grâce de Dieu? C'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas et ne pas recevoir quelque chose qu'on mérite. On ne mérite pas sa grâce, mais Dieu nous la donne librement. Dieu nous a donné sa grâce, mais sa grâce, on l'obtient par la foi. Si on n'a pas la foi en Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver de nos péchés, il n'y a pas de salut. L'autre ingrédient, c'est le sang de Jésus-Christ qui était versé sur la croix. Alors, c'est par la grâce, par la foi, dans le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Alléluia. Oui. Je vais juste laisser Jean-Pierre qui avait sa main, puis je vais te passer à toi, Hector. Qu'est-ce que tu peux ajouter là-dessus, Jean-Pierre? Peut-être Hector a quelque chose aussi à ajouter qui pourrait nous éclairer sur le sujet. OK. Oui, Hector, est-ce que je peux te demander une faveur? Juste de t'élever puis faire face parce que pendant que Jean-Pierre parlait, il y a du monde en arrière qui ne pouvait pas l'entendre. Veux-tu avoir le micro?
Si on commence à prendre une doctrine comme celle-là, la prédestination puis tout ça, puis on commence à discuter de ça, je suis sûr qu'on va avoir bien de la difficulté à régler ça. Tu sais, ça nous dépasse, c'est au-dessus de nous autres. Mais moi, il y a on peut croire ça, mais d'autre part, c'est aussi écrit dans une référence dont je ne me souviens pas. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça aussi, c'est dans la Bible. Donc, si on prend ce verset-là et qu'on pousse ce verset-là, ben là, on dit, ben, Dieu veut que tous soient sauvés. Donc, s'il y en a qui ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi ce que Dieu voulait pour eux. Alors, on peut prendre un côté, on peut prendre l'autre. Mais en bout de ligne, là, c'est juste au-dessus de nos têtes, ça nous dépasse. Je pense que pour nous autres, on ne voit pas ça, puis ceux qui vont en mission, ils font bien d'y aller. Puis même s'il n'y aurait pas un seul converti, c'était le commandement de Dieu d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, la volonté de Dieu s'est faite à travers de ça, puis il y en a qui le prennent, il y en a qui ne le prennent pas. Alors, on ne peut pas juste s'asseoir là et dire, bon, ben de toute façon, je ne sais pas qui va être sauvé, alors je fais rien, puis advienne que pourra.
Je vais être obligé juste une dernière intervention. J'aimerais ça, Louise, mais Claire, s'il te plaît. Parce que là, le temps avance. Je suis en train d'en remplir pas mal de temps là, avec ça. Ah, amen. 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 Exactement. Moi, je voudrais juste, très rapidement, pour continuer mon message après ça, j'ai une autre diapo sur Vivifi. Je voudrais rajouter ce que Jean-Pierre a mentionné, Brigitte, pour peut-être t'aider. Quand Jean-Pierre a parlé d'être libre arbitre, Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. D'ailleurs, c'est probablement quelque chose des plus dangereux qu'il ne nous a pas laissé entre les mains, c'est le choix. Mais est-ce que tu aimes quelqu'un quand tu ne leur donnes pas le choix? Si toi, tu décidais que tu aimais quelqu'un ou tu étais un enfant là, que tu aimes beaucoup et tu veux tellement le surprotéger là, que tu l'enfermes dans une chambre toute sa vie enchaînée après une patte de son lit, là, est-ce que c'est l'aimer, ça? Voilà. Et c'est pour ça qu'on est libre de choisir de le suivre ou de ne pas le suivre. T'sais? Mais quand on parle de prédestination, pour aller dans le sens, on ne sait pas qui ce qui est. On est demandé d'œuvrer. On ne sait pas. Lui, Dieu, il le sait. Il sait qui ce qui va le suivre de son plein bon gré. Mais nous, on ne sait pas. C'est pour ça que nous, on est ses instruments pour amener d'autres âmes à accepter Jésus-Christ. Amen. Oui. Oui, rapidement. Parce que. Ouais. Mais c'est parce qu'on ne sait pas s'il y en a qui se sont convertis là, à sa crucifixion. Peut-être qu'il y en a qui se sont convertis. Il y en avait qui étaient là, qui l'aimaient, qui suivaient Jésus-Christ. Ils n'étaient pas là juste pour l'aspect persécution. Il y en a qui aimaient Jésus-Christ. Ils étaient là pour le voir mourir. Il y en a qui plus ont pleuré. Il y en a qui ont eu une peine énorme de voir leur Seigneur se faire crucifier. Puis il y en a qui connaissaient la parole, puis qui savaient exactement qu'est-ce qui se passait devant eux. Il y en a qui reconnaissaient que leur Messie venait d'être crucifié. C'est pas, Brigitte. OK. Je vais juste laisser Hector. Oui. Ouais. Puis le centurion.
Il y a le centurion qui a dit, je pense, celui-ci
est vraiment... Est vraiment le fils de Dieu. Ah, ouais.
Il était un Romain.
C'est pas un Juif, c'est un Romain. Ouais, c'est vrai. Bonne observation. Ouais. OK, alors je vais passer à la prochaine diapo. Si on me permet, l'esprit vivifie. Dans Jean 6, 63... Je vais aller rapidement parce qu'il est déjà éveint. C'est l'esprit qui fait vivre, vivifie. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit, Saint-Esprit et vie. Dans 2 Corinthiens 3, 6, il nous a aussi rendu capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Je sais que ma sœur, d'ailleurs, Claire, elle aime bien ce verset, car la lettre tue, je l'ai déjà entendu en parler de ce verset-là, fait vivre. Alors, ceci complète mon message aujourd'hui. Je veux juste conclure avec une autre... En fait, c'est une plug que je vais faire, parce que j'aime ce livre. Je ne l'ai pas fini et j'ai hâte de le finir. Et c'est une... Le livre de A.W. Tozer, peut-être que ce sera bon, justement, Brigitte, je ne sais pas si tu l'as, ou quiconque l'a, c'est « Quand il sera venu ». C'est à l'arrière de son livre. « Lorsque l'Église est privée du travail de l'Esprit-Saint, elle est alors envahie par le formalisme et l'institutionnalisme. Douée d'une extrême perspicacité, M. Tozer a également indiqué les dangers possibles de cet enseignement et a établi une base pour discerner les contrefaçons. Parce qu'il nous est donné par le Saint-Esprit le pouvoir de discerner les esprits, de savoir qu'est-ce qui est. Et si vous me permettez, là, s'il y a une façon à 100% sûre de pouvoir discerner les esprits et se dire si quelque chose est correct ou pas, ramenez ça à ce bon livre. Si c'est pas biblique, c'est pas bon. Si c'est biblique, on peut se mettre à continuer à écouter la personne. Il a considéré les dons de l'esprit comme toujours valides et a offert de sages conseils quant à leur bon usage dans l'Église. Alors, le livre, encore une fois, vous avez le titre « Quand il sera venu » de A.W. Tozer. Oui. Pour ceux qui lisent mieux en anglais ou quoi que ce soit, c'est « Quand il sera venu » de A.W. Tozer. C'est d'ailleurs un allianciste. Il faisait partie de notre dénomination, Tozer. Alors, j'aimerais finir, frères et sœurs, dans la prière, parce qu'on veut se garder aussi du temps pour se délier les cordes vocales et adorer notre Seigneur dans la louange. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce temps qui nous a qui nous a fortifiés, nous a consolés, vivifiés et inspirés, Seigneur. Merci de ta parole. Merci que tu nous aies laissé les instructions nécessaires, Seigneur, pour une bonne vie, pour une vie éclairée, une vie qui nous remplit de sagesse. Parce que ta parole est sagesse. Ta parole, tu es sagesse. Tu es, Seigneur, tout-puissant. Et, Seigneur, on te remercie encore une fois pour le privilège qu'on ne devrait pas prendre pour acquis, Seigneur. Ce privilège de pouvoir se réunir, partager ta parole, partager ces paroles saintes qui nous aident, Père Céleste, à rester confiants que tu es là, tu agis, Seigneur. Et comme les pas dans le sable, Seigneur, cette illustration que lorsqu'on est dans des moments de tribulation, c'est toi qui nous portes dans la vie. C'est toi, Seigneur, sur lequel on peut s'appuyer et te faire confiance, car tu es notre roc et tu es celui qui nous fortifie. C'est dans le glorieux nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen. Alors, je vais inviter l'équipe de louange et j'espère que le message aura un impact dans vos vies.